7-9. Bienvenue dans le 7-9, bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 février. Bonjour Anaïs Feugat.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Vladimir Poutine, ferme sur sa position, mais ouvert au compromis dans la crise ukrainienne. Emmanuel Macron veut y croire, il est en Ukraine aujourd'hui. L'ensemble des détails après les autres titres.
137 milliards d'euros de dividendes pour le CAC 40, la bourse se porte bien, mais les augmentations de salaires ne suivent pas. Dans ce journal, les 60 ans du drame du métro Charonne, les victimes attendent une reconnaissance de l'État. Alexis Peintureau, 11e du Super G, nous serons en direct des JO et une bande dessinée dans l'Amérique reculée, tome 3 de Melville.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
On a les politiques qu'on mérite, c'est le titre percutant de son nouvel essai où elle explique que nous sommes, nous tous, citoyens, responsables de la médiocrité du débat public. Elle nous appelle à mieux traiter les politiques. Un point de vue, disons, disruptif qu'elle nous expliquera à 7h50. La politologue associée à la Fondation Jean Jaurès, Chloé Morin, sera avec nous à 7h50.
Et à tout à l'heure, Léa, 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le ministre de l'économie, des finances, de la relance, Bruno Le Maire, qui répondra évidemment à vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Ils ont dû parler fort pour s'entendre d'un bout à l'autre de cette gigantesque table blanche. Image de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, à bonne distance l'un de l'autre. Plus de 5 heures de discussion hier à Moscou. Pas de désescalade dans la crise ukrainienne, mais la porte du compromis entrouverte. Notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
Le dialogue a manifestement été relativement courtois entre les deux hommes, mais les positions restent fermes. Pour Vladimir Poutine, la possibilité que l'Ukraine intègre l'OTAN est toujours aussi inacceptable. Le président russe en a même envisagé les conséquences éventuelles en prenant le cas de la Crimée qu'il a annexée et dont l'Ukraine réclame toujours le retour.
Est-ce que vous comprenez ou pas que si l'Ukraine rejoint l'OTAN et reprend militairement la Crimée, les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit militaire avec la Russie? Vous voulez que la France soit en guerre avec la Russie?
De son côté, Emmanuel Macron n'a pas hésité à rappeler quelles étaient les lignes rouges pour les Occidentaux. Pas question de renoncer à la politique de la porte ouverte de l'OTAN, mais le président français a aussi voulu tendre la main à la Russie.
La Russie est européenne. Qui croit à l'Europe doit savoir travailler avec la Russie et trouver les voies et moyens de construire l'avenir dans l'Europe et avec les Européens. Est-ce que c'est chose aisée? Non. Mais est-ce que l'Europe s'est faite sur des initiatives aisées dont les résultats étaient à effet immédiat? Non plus.
Vladimir Poutine s'est dit prêt à examiner certaines propositions qui lui ont été faites hier soir, sans que l'on sache pour l'instant quelle en est la teneur. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Dans le même temps, le chancelier allemand était à Washington, entente affichée mais ambiguïté pas vraiment levée sur le gazoduc Nord Stream 2. Emmanuel Macron, lui, continue, il est en Ukraine aujourd'hui pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky. L'Ukraine sous la menace de dizaines de milliers de soldats russes le long de ses frontières est. Au nord du pays, c'est la Biélorussie où Moscou réunit là aussi ses troupes. Les Ukrainiens de cette région isolée ne veulent pas croire à la guerre, mais aller dans toutes les têtes. Reportage dans cette zone enneigée, Benjamin Illy.
Donc le voici, le poste frontière de Doblyanka. Il y a 1, 2, 3 gardes-frontières à peine. Pourtant, de l'autre côté, en Biélorussie, les Russes auraient déjà disposé près de 30 000 hommes, selon l'OTAN. Oui, très bien, très bien. On s'est mis au chaud, on est reçu à la communauté urbaine par la présidente Svetlana Buzko.
Comme dit le proverbe, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ici, les forces armées ne sont pas forcément visibles, mais cette présence est réelle et elles peuvent être déployées en cas de besoin. Mais on ne se sent pas en sécurité à 100%. Une chose est sûre, nous, les habitants, nous sommes prêts à nous défendre à n'importe quel prix. Personne ne reculera.
Et là, on croise un monsieur avec une bouteille de vodka, il boit un petit coup. Il s'appelle Vladimir, il a 60 ans, il nous dit qu'il est retraité.
Nous sommes les Slaves, il faut vivre ensemble, cultiver la pomme de terre, le blé, ensemble. Le mieux, c'est de s'asseoir autour d'un verre avec un bout de lard, un cornichon salé, et là, on est bien, on règle tout ça.
La vodka et la paix. C'est une autre forme de diplomatie. La diplomatie du peuple. Ciao, ciao.
Le reportage Benjamin Illy en Ukraine.
Il est 7h05, Anaïs, le retour des super profits au CAC 40.
Du jamais vu depuis 15 ans, jusqu'à 137 milliards d'euros de profits en 2021 et bénéfices records à l'instant de BNP Paribas, 9,5 5 milliards d'euros en 2021. On sait que le pouvoir d'achat des salariés s'est invité dans la campagne présidentielle, alors que les négociations salariales patinent. Laurent Kramer.
Sur 100 euros de bénéfices engrangés, les entreprises du CAC 40 reversent en moyenne 70 euros à leurs actionnaires, réinvestissent 25 euros et ne versent pas plus de 5 euros de primes à leurs salariés. Les augmentations annuelles à 0,5% dans le secteur bancaire et notamment à la BNP démontrent que ce système est devenu intenable, souligne Thierry Tisserand à la CFDT.
Les salariés des banques ont l'impression d'être maltraités et de ne pas être la priorité de leurs entreprises. Le plafonnement notamment des dividendes est une question qui va devoir se poser. On réfléchisse en fait à un plafonnement des dividendes qui sont versés aux actionnaires compte tenu du déséquilibre qui est réservé aux salariés et notamment aux évolutions salariales.
Les 3% d'augmentation générale exigée par l'intersyndicale du secteur bancaire ont provoqué cette année un véritable psychodrame chez nos dirigeants, ajoute le responsable syndical, alors que dans le même temps, la BNP et Crédit Agricole et la Société Générale devraient dégager à eux trois pas loin de 18 milliards d'euros de bénéfices cette année.
Le vote définitif d'EDF pour le rachat d'une partie de la branche énergie de General Electric aura lieu en juin, selon nos informations. En attendant, EDF a toujours des problèmes de corrosion sur les systèmes de sécurité de certains réacteurs. L'électricien abaisse sa prévision de production nucléaire. Tout change aujourd'hui pour les 5 millions de personnes qui détiennent légalement des armes à feu en France. Ils vont devoir passer par le système français d'information sur les armes, qui ouvre aujourd'hui aux particuliers. Fini les papiers, place au système numérique, Ariane Grissel, qui va aussi permettre de mieux tracer les armes en circulation.
Ce nouveau fichier remplace le système Agrippa, créé il y a 15 ans et considéré comme vieillissant. Les propriétaires d'armes à feu devront dorénavant créer un compte personnel en se connectant à la page internet du système d'information sur les armes. Le fichier a cette particularité de pouvoir être connecté avec d'autres, ce qui permet par exemple de vérifier au moins une fois par an les casiers judiciaires des détenteurs inscrits pour voir s'ils ont toujours le droit de posséder ou d'acheter une arme. Interconnexion aussi avec les systèmes informatiques des fédérations de chasse, de tir, de baltrape ou de biathlon pour être sûr que les licences présentées sont bien valables. Les policiers et les gendarmes pourront également vérifier via ce système si une arme est enregistrée au domicile de la personne chez qui ils s'apprêtent à intervenir. Si le déploiement se fait par étapes, l'échéance, elle, est la même pour tous. Les particuliers perdront leur autorisation de détenir ou d'acheter une arme s'ils n'ont pas créé leur compte personnel d'ici juillet 2023.
Pour la deuxième année consécutive, le carnaval de Dunkerque annulé. Les chiffres de la pandémie de Covid toujours trop élevés dans le Dunkerquois. Au niveau national, baisse des contaminations et stabilité en soins critiques.
La responsabilité de l'État va-t-elle, Anaïs, être reconnue pour les victimes de Charonne ?
C'était il y a 60 ans la sanglante répression policière d'une manifestation pacifique contre les attentats de l'OAS et en soutien à l'indépendance de l'Algérie faisait 9 morts des syndiqués de la CGT et 250 blessés. 60 ans plus tard, la France tente de panser les plaies laissées béantes par la guerre d'Algérie. Et ses victimes, Rémi Brancato, espèrent une reconnaissance de cet événement par l'État, à l'image de Maryse Tripier, que vous avez rencontrée et qui avait été blessée ce jour-là.
Maryse Tripier n'a que 17 ans ce 8 février 62. Les partis et syndicats de gauche s'unissent dans la rue après l'attentat de l'OAS au domicile d'André Malraux la veille. La photo de la fillette de 4 ans blessée au visage a choqué. Au moment de la dispersion du rassemblement, la police charge.
Je suis entraîné vers les marches du métro.
Boulevard Voltaire, les brigades spéciales de la police du préfet Papon portent des coups de matraque, projettent des grilles d'arbres en fonte.
Je chute, mais je ne suis pas la première. Donc moi, je suis en sandwich. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelqu'un sous moi et puis qu'il y a des gens au-dessus. C'est comme un millefeuille, quoi. D'abord, je me suis dit, respire, trouve un endroit pour respirer. J'entendais des sirènes, mais je me disais, c'est des ambulanciers, on va nous sortir de là. Évidemment, personne ne nous a sortis de là.
La lycéenne réussit à s'échapper par le métro.
Ce qui me marquait, c'était le fait d'être rescapée.
60 ans après, Maryse Tripier regrette que cet épisode de la guerre d'Algérie ne soit toujours pas reconnu.
Le pouvoir d'État, même pas sous Hollande, etc., n'a fait vraiment un geste mémoriel envers les victimes de Charonne. Et je trouve qu'on a aussi notre place comme acteur de l'indépendance.
Il y a 4 mois, Emmanuel Macron a qualifié le massacre des Algériens le 17 octobre 61 de crime inexcusable. Un premier pas pour Maryse Tripier qui attend des mots au moins aussi forts aujourd'hui.
Un rassemblement aura d'ailleurs lieu à 18h à Paris, au métro Charonne, avec le secrétaire général de la CGT et le candidat communiste à la présidentielle. Du plastique partout, du moindre petit plancton à la plus grosse baleine, les écosystèmes marins sont à saturation. Le WWF demande le démarrage de pourparlers pour aboutir à un accord international. Une médaille d'argent au goût amer pour Tess Le 2. La Française échoue sur le fil après avoir ébloui dans les deux premières manches du Big Air. L'or revient à la sino-américaine Hélène Gou à ses JO d'hiver. L'Autrichien Matthias Mayer est entré dans l'histoire avec une quatrième médaille olympique en Super G ce matin. Quant à Alexis Pinturo, Guillaume Batin, vous êtes notre envoyé spécial en Chine. Eh bien, le Savoyard n'est plus l'ombre que de lui-même.
Il y a trois semaines, c'était la semaine autrichienne en Coupe du Monde, la dernière grande répétition avant les Jeux de Pékin. Alexis Pinturo enchaîne les déceptions à ce moment-là et ses premiers mots au micro d'une voix inhabituelle, c'était ça.
Je sais même pas quoi dire, là je commence à avoir le sentiment que cette saison est un enfer.
Il ne comprend pas pourquoi plus rien ne marche, pourquoi ses chronos ne sont plus les meilleurs comme l'an dernier, cette saison marquée par le Graal, le gros globe de cristal, pourquoi il enfourche si souvent les portes. Aujourd'hui, il termine le Super G à la 11e place, très loin du championnat olympique Matthias Mayer à 1:43, mais sa course lui a un peu redonné confiance.
Plutôt bien. Franchement, il faut être honnête. Alors le résultat, oui, c'est pas forcément. J'espérais un peu mieux. Je pense que c'était un moment important pour rentrer dans ces Jeux Olympiques, surtout en termes de rythme, en termes d'intensité que je mets. Et puis après, derrière, aussi prendre les derniers repères sur la piste. Donc aujourd'hui, en compétition avec un vrai dossard. Demain, il y a encore un entraînement pour le combiné. Et puis derrière, on va arriver pour le combiné après-demain. Je pense que c'était une bonne manière de rentrer en matière.
Les Jeux de Pékin sont loin d'être terminés pour le leader de l'équipe de France de ski alpin, le combiné jeudi, mais aussi les slaloms et slaloms géants la semaine prochaine pour oublier cet enfer.
Merci Guillaume Batin et Romain Luquiens. Depuis les JO d'hiver, Alexis Pinturo, donc 11e du Super G. On termine avec cette BD crépusculaire, signée Romain Renard. Troisième tome de sa série Melville, du nom d'un village reculé des États-Unis où l'industrie du bois a périclité. Amélie Perrier, c'est un néopolar sombre et vertigineux.
Le décor est sinistre, délavé par les pluies diluviennes. Melville, c'est l'Amérique reculée, où le chômage a explosé. Les plus chanceux sont partis faire leur vie ailleurs, les autres vivotent au milieu des fantômes des décennies passées. Le personnage principal, Paul Rivest, y passait ses vacances chez sa grand-mère jusqu'au funeste été 1987. Il revient aujourd'hui pour régler le testament de son aïeul et il ne peut éviter son passé, le souvenir de son premier amour, Ruth, la fille du pasteur Jacob, et le terrible incendie encore dans les mémoires 25 ans plus tard. L'auteur, Romain Renard, compose ici un récit complexe qui nous tient en haleine tout au long des 400 pages. Un graphisme proche de la photo ancienne, le sépia pour les flashbacks, le bleu sombre et glacial pour le présent. Et comme dans un long métrage, il rythme les chapitres avec une bande sonore dont les tubes de U2 que les adolescents écoutent dans les années 80. Mais il offre aussi une expansion numérique, un site web avec des bonus, des clips vidéo, des ambiances musicales qu'il a composées lui-même à écouter pendant qu'on lit la BD. Une plongée totale dans un univers fascinant.
L'histoire de Ruth Jacob aux éditions Lombard.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, c'est le feuilleton de la France, épisode 7, aujourd'hui au Relais 6 dans Lyon.